vous suit.
Voici les titres du journal.
La journée du lac ouvert s'est tenue samedi dernier au port de Villeneuve. L'occasion pour le public de se familiariser avec les différentes sociétés qui gravitent autour du Léman pour la commune chablaisienne. Le FCB a fêté ses 120 ans samedi au stade du Relais. Animation, repas et nostalgie étaient au menu de cette journée anniversaire. En gymnastique artistique, les meilleurs athlètes suisses se sont affrontés ce week-end sur la Riviera. Et en basket, le 3 contre 3 prive l'équipe nationale de plusieurs joueurs importants cette semaine.
Pour la météo, un temps souvent nuageux cet après-midi avec quelques averses ou orages. Pour demain, c'est le même type de temps prévu par Météo Suisse. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le Léman était l'objet de toutes les attentions samedi dernier. Quatre sociétés de Villeneuve ont organisé une journée lac ouvert au port communal. Elles ont proposé au public plusieurs activités gratuites comme un atelier voile, une visite de la régate d'intervention, une sortie paddle et un poste de premier secours. L'occasion de mettre leur travail en avant. Sacha Meille, président du Cercle de la voile de Villeneuve, l'un des organisateurs de l'événement.
On a organisé ça il y a quelques années, donc avec le sauvetage, le paddle. Cette année, il y a les Micro Magic qui viennent avec nous. L'idée, c'est de faire découvrir nos activités et potentiellement, ceux qui voudraient s'inscrire comme nouveaux membres sont les bienvenus.
Ouais, c'est une occasion de se faire connaître.
Voilà, c'est exactement. C'est une journée porte ouverte, mais étant donné qu'on est sur le lac, on a renommé le tout.
Pour l'équipe du sauvetage de Villeneuve, l'accent a été mis sur les dangers que comporte la navigation sur le lac. Les accidents ont en effet été nombreux ces dernières semaines. Jérôme Ruchet, président du sauvetage de Villeneuve.
Nous, on fait aussi quand même beaucoup de prévention pour les navigateurs et puis pour les usagers du lac. Après, c'est clair qu'il manque un peu d'informations sur différents sites. Et on a vu l'engouement des paddles depuis le Covid, qu'on avait très peu avant et que maintenant... Vu les connaissances de chacun, pas tout le monde connaît le lac, aussi bien qu'un navigateur, parce qu'il n'y a pas besoin de permis. Alors c'est sûr que maintenant, moins en moins de personnes connaissent les règles, les dangers au niveau du lac, si ce n'est le vent, etc.
À noter que la manifestation devrait être pérennisée pour l'an prochain, un sujet préparé par Thierry Nicolet.
Le trafic ferroviaire sera interrompu sur la ligne Vevey-Les Pléiades.
Du 4 au 22 juillet prochain, des bus remplaceront les trains entre Vevey et Blonay en raison des travaux de la nouvelle halte Vevey-Vigneron, laquelle sera mise en service lors du prochain changement d'horaire en décembre prochain.
Et toujours à Vevey, les nouvelles mesures de stationnement vont être mises en place prochainement.
Pour rappel, le dimanche devient payant et les durées de stationnement seront uniformisées dans plusieurs quartiers. L'objectif est ainsi d'optimiser l'offre actuelle en incitant les automobilistes à se garer dans les parkings souterrains.
C'était le mercredi 1er octobre 1902.
Ce jour-là, une quinzaine de jeunes hommes de la commune de Bay fondaient le club de football local. Samedi dernier, soit 120 ans plus tard, l'heure était à la célébration du côté du stade du Relais. Le comité a organisé un tournoi impliquant toutes les équipes de la société. Un musée dédié à l'histoire du club a aussi été mis sur pied. L'occasion de se replonger dans quelques anecdotes sur le FCB avec Charles-Henri de Sarzan, au club depuis 1978 et actuel membre du comité.
Des anecdotes, il y en a eu bien sûr. À un moment donné, il y avait deux clubs. De 1971 à 1985, on avait le FCB d'un côté et le Unistar 77 de l'autre. Et c'était des derbies qui étaient absolument incroyables au niveau de la passion chez le public. Il y a eu jusqu'à 800 personnes qui venaient voir les deux équipes de B jouer l'une contre l'autre. On se remémore peut-être les années les plus célèbres du club. Au milieu des années 90, quand le club est monté en première ligue, et ça faisait tout drôle de voir sur la page du télétexte, FCB était à un moment donné deuxième ou troisième au classement. C'était incroyable, extraordinaire.
Aujourd'hui, le FCB se porte bien, tant sportivement que structurellement. Il reste toutefois compliqué de trouver une relève motivée, que ce soit au niveau des entraîneurs ou du comité. Charles-Henri de Sarzan.
Ça a toujours été difficile, peut-être encore plus aujourd'hui, puisque la société offre tellement de loisirs. À l'époque, on avait l'habitude de dire, un jeune, il pouvait faire quoi ? Le foot, la gym, éventuellement la musique, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a une multitude d'activités, les gens peuvent se déplacer, et il y a une certaine concurrence. Mais malgré tout, je pense que le football reste le sport roi et intéresse toujours les gens. Il n'y a qu'à voir la passion quand il y a des compétitions internationales, quand il y a l'équipe suisse qui joue. C'est extraordinaire l'engouement que ça génère. Et on a quand même quelques jeunes qui sont motivés, des gens qui ont intégré le comité, des gens qui entraînent les juniors. C'est un gros travail parce que les gens qui entraînent les juniors, ils sont bénévoles et puis ils doivent venir en tout cas 3 fois par semaine puisqu'ils ont souvent 2 entraînements. Ils ont le samedi matin, il faut trouver des voitures. C'est eux qui font tourner le club, c'est le moteur du club. Et c'est pas toujours facile à trouver, mais on y arrive parce qu'on est une équipe motivée et puis que les gens, un entraîne l'autre et ainsi de suite.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Notons encore qu'à l'heure actuelle, la première garniture du FCB milite en 4e ligue. Vérossa célèbre aujourd'hui les 200 ans de son indépendance. La commune s'est en effet séparée de Saint-Maurice le 27 juin 1822. Pour marquer ce jubilé, les autorités ont décidé d'organiser une fête villageoise le 27 août prochain. À cette occasion, un livre retraçant l'histoire du village sera présenté au public. Par ailleurs, un sentier didactique imaginé et conçu par la société de développement sera inauguré ce jour-là. L'enseignante Chloé Frameri, une des figures de proue en Suisse romande des manifestations d'opposants aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, va recourir contre son licenciement par le département de l'instruction publique de Genève. L'information révélée par la Tribune de Genève a été confirmée aujourd'hui par Pascal Junot, l'avocat de Chloé Frameri. Et selon lui, l'État reproche notamment à cette enseignante une violation du devoir de réserve et d'avoir mené des activités qui relèvent, je cite, de la sphère privée. La fonctionnaire était suspendue de son poste depuis presque une année.
Nous vivons un changement d'époque avec une incertitude croissante.
Ces mots sont ceux du chef du renseignement de la Confédération, Christian Ducet. Le Valaisan a présenté ce matin à Berne le rapport de sécurité 2022 pour la Suisse. Il a notamment insisté sur les conséquences négatives que la guerre en Ukraine avait sur la sécurité alimentaire et en approvisionnement énergétique. Cela allait créer de fortes tensions dans certains pays en voie de développement avec un risque de crise migratoire. Et quant au risque d'attentat en Suisse, Christian Ducet le décrit comme tel.
Le niveau de menace est toujours élevé, il est élevé depuis plusieurs années et surtout marqué par la mouvance djihadiste. Ce qui est difficile pour tous les services de renseignement, que ce soit en Suisse, que ce soit à l'étranger, c'est de détecter parce que cette menace est devenue beaucoup plus diffuse que par le passé. Voir un individu qui se radicalise en s'inspirant de sources djihadistes sur Internet et qui peut commettre quelque chose. Ça peut être avec une arme blanche, ça peut être avec une voiture, et ça c'est imprévisible et très dur à détecter pour tous les services de renseignement, comme nous avons vu ce week-end à Oslo malheureusement.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejat Toulami. Christian Ducet a aussi insisté sur l'importance du SRC, d'avoir les moyens de détecter de manière précoce les problèmes afin de pouvoir agir en amont. Le procès des attentats du 13 novembre s'est achevé ce matin au terme de près de 10 mois d'audience et la cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi soir. Dans sa dernière prise de parole, Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, a déclaré, je cite, « J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Et si vous me condamniez pour assassinat, vous commettriez une injustice. »
Les pays du G7 réunis en sommet en Allemagne vont resserrer encore l'étau économique contre la Russie.
Un haut responsable de la Maison-Blanche a indiqué aujourd'hui qu'il comptait le faire, en particulier en développant un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. Ils vont également, de concert, continuer à restreindre l'accès de la Russie à des ressources industrielles cruciales, en particulier dans le secteur de la défense, que Washington va d'ores et déjà cibler de manière agressive via des sanctions contre de grandes entreprises publiques russes, selon la même source. Le Pérou, qui figure parmi les pays les plus endeuillés au monde par le Covid-19, subit une 4e vague de coronavirus depuis le début de la pandémie, avec une hausse notable du nombre de cas, annoncé le gouvernement. Plusieurs provinces sont concernées, comme notamment Cusco et la capitale, a déclaré le ministre de la Santé, Jorge López. Selon les chiffres officiels, le nombre de contaminations est passé de 1800 cas par semaine en début de mois à plus de 11 000 la semaine dernière. Les autorités sanitaires ont exhorté la population à se faire vacciner pour prévenir les cas graves et ainsi éviter les hospitalisations. Les autorités japonaises ont mis en garde aujourd'hui contre une possible pénurie d'électricité alors que le pays subit des températures records. Tokyo vient de vivre la saison des pluies la plus courte de son histoire. Nous demandons au public de réduire sa consommation d'énergie en début de soirée quand les réserves d'électricité sont au plus bas dans le Grand Tokyo, a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement nippon. On passe au sport. En gymnastique artistique, les titres nationaux ont été décernés ce week-end. La salle Omnisport de Clarens a accueilli durant tout le week-end les championnats suisses. Durant deux jours, les meilleurs spécialistes se sont affrontés tant sur le concours complet que par engin. Si la Suisse alémanique a brillé durant la compétition avec la victoire de la Turgovienne Lili Abyss-Reutinger, les gymnastes romans se sont également illustrés. Dans la catégorie junior, chez les dames, Angela Penici est arrivée deuxième lors du concours complet. La Neuchâteloise de 14 ans est revenue sur le chemin parcouru pour décrocher un tel résultat.
Beaucoup d'exercices, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi par rapport à l'école et tout. Et puis, tout ça ensemble et ça donne le résultat.
Pour la suite, toi, ça te donne de la motivation, ça t'encourage encore à t'entraîner, sachant que tu fais deuxième Suisse junior pour ce qui est du concours général. Ça te motive pour la suite, ça te donne des bonnes idées?
Bah oui, complètement. Faudrait bien qu'un jour je sois championne suisse et tout, ce serait vraiment super.
Ça, c'est ton objectif?
Ouais, bah oui, complètement.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Chez les dames élites, la meilleure romande se nomme Mae Santizic et elle a pris le 20e rang du concours complet, alors que chez les hommes, le montreusien David De Martini s'est classé 6e en amateur.
En basket, il n'y a pas eu de surprise samedi lors de la manche Vevezanne du Swiss Tour.
Alors que le circuit national réservé aux 3 contre 3 faisait halte sur la Riviera ce week-end, la victoire n'a pas échappé au Team Fribourg. Déjà vainqueur des deux étapes précédentes, les Fribourgeois ont cette fois remporté la finale contre le Team Montais sur le score de 21 à 15. De quoi aborder en confiance le tournoi Challenger de Poitiers prévu le week-end prochain. Pour pouvoir disputer cette compétition, certains joueurs ont dû faire un choix drastique, renoncer à l'équipe. L'équipe de Suisse de basket à 5 contre 5. Plusieurs internationaux composent en effet le Team Fribourg et 3 d'entre eux ont décidé de zapper les matchs de pré-qualification à l'Euro 2025 qui attendent la Nati. Le Vevezan Jonathan Duba est l'un de ses joueurs.
On a eu ce problème là dès le début de la création de notre équipe où on a été tout de suite contacter la fédération, nous leur faire part de notre désir de monter notre équipe 3-3 avec effectivement 5 joueurs de l'équipe nationale 55. Donc c'est sûr qu'il fallait pas non plus couper tout d'un coup, mais on a essayé de justement pas mettre Fribourg 3x3 au premier plan, mais mettre justement essayer de séparer les joueurs pour que au final nous en tant que 3 contre 3 on puisse jouer nos tournois sans être pénalisés et que l'équipe suisse d'un autre côté puisse aussi avoir des joueurs sans être trop pénalisés. Alors effectivement il y aura 3 joueurs qui vont pas venir au rassemblement. On essaye d'être le plus adapté possible pour les deux équipes en fait.
Jonathan Duba au micro de Julien Traxel. Pour ces deux derniers matchs de pré-qualification à l'Euro 2025 de basket, la Suisse s'en ira affronter Chypre jeudi, puis l'Irlande dimanche. Et puis enfin, en hippisme montant The Sinner, Martin Fuchs a remporté le Grand Prix de l'épreuve 4 étoiles de Milan. Dans le stade qui accueillera les championnats d'Europe en 2023, le numéro 1 mondial zurichois s'est imposé devant son amie américaine Paris Salon avec Remix.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.